Le débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. Demain, mardi, s'ouvre à Paris le 6e forum de l'OCDE sur la finance verte. Finance et écologie, voilà deux mots qui pour certains sont antinomiques. Pourtant, la finance verte existe. Elle représenterait aujourd'hui près de 28 milliards d'euros dans le monde. Investir pour une meilleure planète, c'est donc possible. Mais il semble que les obstacles sont encore nombreux pour un véritable essor. Manque d'harmonisation, manque d'engagement. Alors, une autre finance est-elle possible et peut-elle répondre à la crise écologique? Eh bien, c'est notre débat ce soir. Et nos deux invités à nos côtés en studio, Pierre Ducré, bonsoir.
Bonsoir.
Président de Finance for Tomorrow, qui est une initiative des métiers de la finance sur la finance verte. Et face à vous, Alexandre Poidatz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé du financement de la transition énergétique chez Oxfam. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation d'RFI. D'abord, pour poser ce débat concrètement, c'est quoi la finance verte? Votre définition, on va commencer par vous, Pierre Ducré.
Ma définition, c'est d'abord une définition négative, c'est-à-dire ce n'est pas une poche de la finance. La finance verte, c'est l'ambition de transformer la finance pour la mettre au service des objectifs de l'accord de Paris sur le climat, d'une part, et au-delà de ça, des objectifs de développement durable de l'agenda 2030 de l'ONU. C'est ça, c'est-à-dire que c'est à la fois, c'est un double défi. Il s'agit à la fois de financer le vert, en quelque sorte, de financer ce qui doit permettre de nous orienter vers ces objectifs, et aussi verdir la finance tout entière, vous voyez, c'est-à-dire de changer ses modes d'action. Donc c'est une véritable transformation du logiciel de la finance.
Donc,
on entend
à la fois,
derrière le terme finance verte.
Vous dites double objectif, c'est à la fois une autre finance et une transformation de la finance.
Oui.
Alexandre Poidatz, c'est également votre définition ?
Oui, on est plutôt d'accord. Mmh. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transition écologique, de transition énergétique. Donc c'est de dire de passer d'un modèle A un modèle B, et en fait pour passer de ce modèle A à B, on a besoin d'argent, c'est le nerf de la guerre, donc on a besoin de financement, et ce financement vient entre autres des acteurs financiers privés, donc les banques, les assurances, c'est ce qu'on appelle la finance, et aujourd'hui on a besoin que tous ces acteurs financiers investissent et financent des projets qui sont de plus en plus verts. Donc la question c'est, est-ce que ces acteurs financiers là sont plus verts, et donc est-ce que la finance est plus verte?
Alors, est-ce qu'on peut faire un état des lieux aujourd'hui de la finance verte? Qu'est-ce que ça représente? Donc, je l'ai dit en introduction de cette émission, près de 28 milliards d'euros par an dans le monde, ce n'est pas rien. Comment est-ce que cet investissement concrètement se traduit, Pierre Ducré?
Quand vous dites 28 milliards, je ne sais pas ce que vous comptez là-dedans.
Mais ce sont les chiffres qui circulent selon les professionnels du secteur.
C'est pas facile de faire le comptage. Parlons des besoins. Si on prend l'ensemble le plus large, c'est la totalité des flux financiers qui s'agisse transformer. C'est d'ailleurs un des objectifs de l'accord de Paris. C'est
avant aligner les besoins, qu'est-ce qui est fait déjà sur en termes de finances vertes aujourd'hui en 2019?
Il faudrait parler des investissements eux-mêmes, si vous voulez. Encore une fois, le comptage est difficile à faire. Ce qu'on sait, par exemple, c'est sur le besoin pour la seule transition énergétique, qui est de l'ordre de 1000 milliards par an, si on prend les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie. Aujourd'hui, les investissements véritablement conformes à l'accord de Paris sur le climat, ils ne représentent que 60%, si je ne me trompe, de ce total. Vous voyez, c'est 600 milliards d'investissements conformes contre 400 qui ne sont pas, quoi, à peu près. Je crois que c'est à peu près ça. Enfin, vous avez à vue de nez. Mais la question, c'est les investissements. C'est
en
ça
fait,
qu'il
la finance verte, c'est la conformité avec des choses qui ont été décidées, tout simplement. La conformité avec, par exemple, l'accord de Paris, vous nous dites.
Mais pour ne parler que du climat, c'est ça. D'ailleurs, c'est écrit dans l'accord de Paris. Il y a un objectif de réduction des émissions, un objectif d'adaptation au changement climatique, et puis il y a un troisième objectif qui est d'aligner la totalité des flux financiers sur les deux objectifs précédents. Donc c'est la totalité des flux financiers qu'il s'agit d'aligner. Donc c'est pour ça que je dis que c'est bien la totalité de la finance qu'il s'agit de changer. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la finance, qu'est-ce que c'est? La finance, c'est une industrie, d'abord, à l'échelle mondiale. Je vais être très rapide là-dessus. C'est une industrie dont le rôle consiste à bouger l'argent. C'est ce que les économistes appellent l'allocation du capital. Pendant très très longtemps, la finance considérait que elle était passive par rapport au sujet du climat. Non pas qu'elle était contre, mais qu'il fallait d'abord changer l'économie réelle et qu'ensuite, tout naturellement, la finance financerait le vert. et qu'il fallait donc changer la fiscalité, les signaux de politique économique, et que après, on ferait de la finance verte. Ce qui est nouveau depuis 5 ans, c'est que les financiers ont admis qu'ils avaient une responsabilité propre. Alors, entendons bien une chose, ils peuvent faire la finance, l'industrie financière peut faire un certain nombre de choses, elle peut pas tout faire, elle peut pas faire les choses à la place des politiques publiques, mais elle a une responsabilité propre, et surtout, et notamment, elle accepte cette responsabilité parce qu'elle a aussi des risques propres, c'est-à-dire qu'elle a pris conscience du fait que si elle faisait rien, ça risquait de lui coûter très cher, et que donc il fallait, et qu'il y avait aussi des opportunités à saisir.
Ça veut dire que le principal frein au développement de la finance verte, c'est pas les financiers, ils sont prêts à agir selon vous, mais c'est la volonté politique?
Je sais pas.
Avant de passer la parole à Alexandre Podat.
Je sais pas qui est le principal frein. Le principal frein, c'est le fait que il faut arriver à aligner, pour faire la transformation de l'économie mondiale qu'on a besoin de réaliser, il faut aligner tout. Il faut aligner des politiques publiques, les comportements des citoyens, l'allocation du capital. C'est la totalité des composantes de l'économie mondiale qu'il faut aligner. Quel est le principal frein? Je vais pas donner le tableau d'honneur ou de déshonneur sur ce sujet. Tout le monde a sa part de responsabilité.
Alexandre Podat. Comment aligner ces planètes, un petit peu comme nous dit Pierre Ducret, selon vous? Il faudrait quoi? Une sorte d'harmonisation, peut-être mondiale, européenne, avec des textes contraignants sur la finance verte, pour permettre davantage d'engagement?
Alors, très clairement, si vous me demandez si la finance est verte aujourd'hui, je vous réponds non. Il y a de plus en plus d'initiatives, qui vont dans ce sens, mais on n'y est pas encore. Alors, comment y arriver? C'est là votre question. Selon nous, les acteurs financiers n'ont très clairement pas réorienté leur flux financier vers une économie verte, une économie bas carbone. C'est la responsabilité à la fois des acteurs financiers privés, donc par exemple les banques, mais également de l'État. Si je vous donne juste un exemple, très simple, depuis l'accord de Paris, sur la COP21, ce qu'on appelle également, donc en 2015, les banques françaises ont augmenté leur financement fossile vers les énergies fossiles, qui sont un des principaux responsables des changements climatiques aujourd'hui, d'un même montant qu'elles ont baissé leur financement renouvelable. Aujourd'hui en France, si vous placez 10 euros dans une banque, il y a 7 euros qui vont dans les énergies fossiles, 2 euros dans les énergies renouvelables et 1 euro vers d'autres énergies telles que le nucléaire. Donc, les acteurs financiers, même s'il y a eu des initiatives plutôt dans le sens de la finance
verte, ils ne sont pas à la hauteur des enjeux climatiques aujourd'hui.
En ce qui concerne l'État, aujourd'hui, nous, on demande effectivement à ce que l'État puisse mettre en place des mesures contraignantes. Bruno Le Maire, je le cite lui-même, le ministre de l'économie, dit « la finance sera verte ou ne sera pas ». Et il a dit lui-même, en novembre 2018, que les acteurs financiers doivent sortir du charbon, donc ne plus investir dans le charbon parce que c'est l'énergie fossile qui est la plus polluante. C'était en novembre 2018. Le 2 juillet 2019, le gouvernement a appelé les acteurs financiers à avoir un plan de sortie du charbon d'ici mi-2020, donc juillet 2020 si vous voulez. C'est positif et on voit qu'il y a une prise de conscience à la fois des acteurs financiers et de l'État, sauf que là, l'État n'a pas donné les contours de ce plan. Donc on est surtout face à un État qui demande à des banques d'avoir de l'autorégulation. Donc on croit un peu à la prophétie de l'autorégulation.
En gros, qui doit parler à qui et par qui finalement ça doit commencer? Est-ce que c'est les banques qui doivent impulser le mouvement ou l'État?
Alors, c'est les deux. En fait, c'est très simple. C'est dire, d'ici 6 mois, on attend que vous ayez un plan de sortie des énergies fossiles. Très clair, détaillé, en disant que, par exemple, il n'y a plus de nouveaux financements qui vont dans des structures très polluantes. Mais ceci, il faut le préciser. Et ça, l'État doit le demander publiquement. Le gouvernement doit le demander publiquement auprès des banques. Et si, d'ici 6 mois, 1 an, elles ne le font pas, alors l'État peut mettre en place des normes contraignantes.
Pour élargir au-delà de la France, au mois de septembre, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, 130 banques de 46 pays ont signé une charte de principe pour une banque responsable. Est-ce que ça va dans le bon sens selon vous, ou est-ce que ça ne va pas être contraignant et c'est le nerf de la guerre?
Alors les banques à ce moment-là et les acteurs financiers se sont engagés à développer des méthodologies pour évaluer leur impact sur le climat. Sauf qu'aujourd'hui, on en est encore à développer des méthodologies.
C'est ça, on en est encore au balbutiement.
Exactement, mais du côté des acteurs financiers. Si vous me demandez, moi je vous dis, les méthodologies existent. Et les demandes sont là. C'est très clair, il faut juste désinvestir progressivement du charbon. Je vous donne un exemple aussi pour vous montrer que c'est possible. Le Crédit Agricole, en juin 2019, donc il y a 3-4 mois, a annoncé une sortie du charbon d'ici 2030 dans les pays de l'Union européenne et qu'il ne développerait plus, qu'il ne financerait plus, pardon, des entreprises qui développeraient des projets charbon. Donc c'est possible. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est que ce n'est pas des engagements, voilà, d'autorégulation des banques ou de méthodologie, c'est vraiment d'énormes contraignantes et des engagements vers un désinvestissement progressif.
Après les belles paroles, les actes, Pierre Ducret, il faut ça pour la finance verte aujourd'hui, parce que pour l'instant, elle ne pèse pas suffisamment.
Alors, elle ne pèse pas suffisamment. Bon, d'abord, encore une fois, on est face à une transition. Il faut que cette transition soit la plus rapide possible. L'objectif étant, vous savez, pour ne parler que du climat, d'arriver à une situation qu'on appelle net zéro 2050. Zéro émission nette en 2050. Donc c'est une modification de l'ensemble de l'économie mondiale qu'il faut faire. C'est une transition rapide, mais c'est quand même une transition. C'est-à-dire qu'on va pas du jour au lendemain mettre en panne des secteurs entiers de l'économie en coupant le courant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est bien une transition. Il y a un sujet qui est de savoir c'est dans quelle mesure on peut pratiquer ce qu'on appelle des politiques d'exclusion. C'est-à-dire arrêter de financer certaines choses. La question est particulièrement pertinente pour le charbon parce qu'on sait que c'est, nous sommes d'accord sur ce point, c'est la question la plus urgente. En gros, la transition, ça commence par le fait d'arrêter de faire de l'électricité avec du charbon et ça, il faut qu'on arrête de le faire dans le monde entier dans la décennie qui vient, disons, en gros.
Oui, la prise de conscience
donc,
avant les actes.
Et donc, le signal envoyé par l'industrie financière selon lequel l'accès au capital pour tout ce qui consiste, tout ce qui permet de faire de l'électricité avec du charbon, que l'accès au capital soit plus possible, c'est une bonne chose. Alors, il faut relativiser quand même un peu les choses, parce que quand les structures financières institutionnelles arrêtent de financer certains secteurs, comme le charbon, on s'aperçoit qu'ils arrivent quand même à se financer par des structures moins institutionnelles et quelquefois moins respectables. Et donc c'est une des limites des stratégies d'exclusion. Pour autant, je pense, comme beaucoup, que sur le charbon, ça a vraiment du sens d'aller dans ce sens, de sortir les financements. Mais il faut bien avoir conscience que même ça, ça se fait pas du jour au lendemain pour beaucoup d'établissements. C'est des engagements qui se font dans la durée. Il faut tenir compte de contrats existants. Il faut tenir compte des différentes façons qu'ont les banques et les établissements financiers de concourir à ces investissements. Il y a des choses qui sont existantes. Quelquefois, elles sont en position de conseil. Quelquefois, elles sont en position de prêteur, etc. C'est pas si simple, si vous voulez. Et enfin, pour reprendre l'exemple tout à fait remarquable, effectivement, du Crédit Agricole qui a été donné, vous voyez, chaque établissement prend des positions qui sont liées à la situation de son portefeuille. Et puis, vous pouvez pas aligner tous les établissements du jour au lendemain sur le meilleur.
Alors, vous dites qu'il faut du temps, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui est du domaine du concept un petit peu? Est-ce que pour de nombreux financiers, pour de nombreux politiques, écologie et finance sont pas à l'opposé malgré tout?
Exactement, là, je vais en
venir. Ah, Alexandre Poilat, vous pouvez répondre.
Parce que là, je comprends que M. Ducret parle de problèmes inhérents aux acteurs financiers. Parce qu'ils doivent répondre à une certaine... comme vous disiez, selon les établissements, ils doivent répondre à des critères financiers. Et donc, à une demande de profit. Mais derrière, si vous voulez, les marchés financiers ont un impact sur le climat, ont un impact sur la planète. Donc, est-ce qu'on peut attendre une transition de ces acteurs financiers-là, ou qu'ils mettent en place des mécanismes internes et de l'autorégulation comme c'est le cas à l'ONU? Je ne pense pas. Les banques françaises, depuis 3 ans, vous citiez, je crois que c'était 28 milliards de dollars les initiatives au départ dans le monde entier,
oui.
Vers la finance, vers des obligations vertes, oui. Des initiatives positives pour le climat. Les banques françaises, depuis la COP21, c'est 10 milliards uniquement dans le charbon. Dans des financements, ouais. C'est-à-dire pour des entreprises qui vont ouvrir de nouvelles centrales à charbon. Et ça, aujourd'hui, on n'a vraiment plus le temps, le budget carbone mondial n'a plus le temps et le besoin de faire ça. Et je vais rajouter un point, si vous me le permettez, c'est que j'ai dit que les marchés financiers ont un impact sur le climat, mais ça double tranchant. Le climat a un impact sur les marchés financiers. Je vous explique. Aujourd'hui, on sait très bien que la transition, ce sont... avant tout, dans le futur, les énergies renouvelables qui seront les plus compétitives et dont on aura besoin. Donc, c'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, une banque, quand elle détient du charbon, des actifs charbon ou des actifs de gaz ou de pétrole, eh ben, elles vont se déprécier avec le temps. Elles vont perdre de la valeur. Et c'est un vrai risque financier pour elles. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre qui s'appelle Mark Carney, qui est aussi le président du Conseil de Stabilité Financière International.
Alors on voit bien qu'il y a des objectifs qui ne sont pas tenus, il y a une offre qui semble moins importante finalement que la demande. Je vais vous citer une étude intéressante. Selon une enquête publiée par le Forum pour l'investissement responsable, 76% des Français estiment qu'il est important que les établissements financiers prennent en compte la transition énergétique et le développement durable, mais 61% des personnes interrogées déclarent n'avoir jamais entendu parler de l'investissement socialement responsable. Pierre Ducret.
Oui. Et alors, il y a une vraie demande de la part des particuliers.
Ça renvoie au manque de volonté politique, finalement, dont on parle depuis le début de cette émission, sur la question de la finance verte.
Je ne sais pas si c'est vraiment un manque de volonté politique.
C'est en tout cas ce que pointe Alexandre Poidat sur l'histoire des centrales à charbon qui perdurent.
Ce que vous évoquez là, c'est surtout le fait que le concept même d'investissement socialement responsable est quelque chose d'un peu complexe qui renvoie surtout à des façons de d'organiser les produits financiers. Je pense que quand on demande aux gens ce que c'est que des fonds verts, par exemple, ils voient plus rapidement qu'il s'agit de flécher les emplois qui sont faits de leur épargne. Et ce qui, là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'ils comprennent, en gros, ils comprennent mieux de quoi il s'agit. Là où vous avez tout à fait raison, c'est que ils attendent des produits de ce genre qui, au passage, et c'est tout à fait possible, ne remettent pas en cause pour autant leurs espérances de rendement. C'est possible aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit qu'on peut faire de la finance responsable et de la finance verte sans remettre en cause les rendements attendus par les épargnants, et que il n'y a pas suffisamment d'efforts de commercialisation dans ce domaine. C'est vrai.
Il y a une frilosité, est-ce qu'il y a une peur aussi de la part des financiers de refroidir un petit peu les épargnants, justement, parce que la finance verte, c'est une nouvelle finance.
Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à une période récente, la finance verte s'était considérée comme une poche, et une poche qui était réservée à des institutionnels. C'était en gros des investissements qui étaient considérés comme risqués dans des domaines de type infrastructure, énergie renouvelable, etc. Et que d'une part, les choses sont beaucoup moins risquées en ce qui concerne justement ces infrastructures et ces énergies renouvelables qui s'avèrent être aujourd'hui capables de produire de l'électricité, par exemple, pour ne parler que de ça, à un coût qui n'est pas supérieur à celui du charbon et sans subvention. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, on s'aperçoit aussi que c'est des univers d'investissement qui sont plus larges, etc. Donc, mais comment dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'incitation à le faire est triple pour les investisseurs financiers. Et c'est relativement récent. La première incitation, c'est qu'ils ont pris conscience du risque à ne pas agir. Risque d'avoir des dépréciations d'actifs.
Il a fallu longtemps ne pas agir
physique.
Pour agir.
Voilà. Donc maintenant, la prise de conscience de ce risque est vraiment, vraiment très très partagée dans l'univers des finances. Il y a une deuxième incitation, si vous permettez, c'est celle qui vient des superviseurs, des régulateurs, principalement en Europe, et des superviseurs qui font pression sur les établissements financiers pour leur demander comment ils traitent justement leurs risques et comment ils réorientent leur financement. Et puis le troisième moteur, c'est bien sûr les particuliers, la société civile, qui disent qu'ils attendent du secteur financier qu'ils réorientent les financements. Maintenant, pour faire ça, et je termine là-dessus, pour faire ça, il faut effectivement des méthodologies parce que c'est une affaire de transition. Donc il y a tout un travail complexe à faire de l'industrie financière sur elle-même.
Alexandre Poidat, de la méthodologie et surtout du temps aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que c'est une question de prise de conscience pour que la finance verte se mette vraiment au développement et au service de la crise écologique.
Bah, la méthodologie existe déjà. Aujourd'hui, si vous demandez à un acteur financier...
Donc c'est du temps.
Bah, non, en fait, aujourd'hui, si vous demandez à un acteur financier quel est le montant d'argent qu'il investit ou qu'il finance dans le charbon, il est capable de vous le dire. Donc c'est pas du temps. Moi je pense qu'on n'a plus le temps. On est face à une urgence climatique. Il y a une transition écologique. Donc on a le temps de progressivement désinvestir du charbon. Mais les plans de sortie des énergies fossiles, du gaz et du pétrole également, parce qu'on a surtout parlé du charbon, mais c'est le cas pour le gaz et le pétrole, il faut qu'ils s'enclenchent maintenant. Et qu'on ait le temps progressivement de désinvestir. Mais l'urgence, c'est de désinvestir dès maintenant et des activités plus polluantes, notamment le charbon.
Et on a bien compris finalement que la finance verte, à l'image des décisions politiques sur l'écologie, c'est une histoire de prise de conscience qui est longue, mais qui se fera. Merci Alexandre Poidat, chargé du financement de la transition énergétique chez Oxfam. Merci à vous, Pierre Ducret, président de Finance for Tomorrow, donc initiative des métiers de la finance sur la finance verte. Merci à vous d'avoir été les invités de ce débat du jour que vous pouvez retrouver sur internet.rfi.fr.